On espère que ce petit aperçu un peu d'éléments choisis, un peu de ce qu'on a trouvé le plus représentatif, en tout cas qui allait dans ce thème de subversion, d'anarchisme au sens large, parce qu'il n'y a pas tant de films centrés sur la question. Mais voilà, c'était pour donner un peu un panel et lancer la conversation, comme on l'a dit avant. Je vais juste essayer j'avais pris des notes un peu pour présenter le sujet. Donc il y en a des choses qu'on a déjà parlé avant, mais je vais revenir. Une des choses qui a amené au choix du sujet de ce soir, c'est aussi le décès d'Ursula Le Guin, qui est intervenue en début d'année. Donc, Ursula Le Guin, qui a écrit le livre Les Dépossédés, qui est peut-être le roman le plus expressif de l'anarchisme en science-fiction, où elle décrit vraiment une société d'anarchistes, vraiment en s'inspirant de plusieurs auteurs. Mais on va y revenir, mais voilà, dans les choix de ce thème, ça revenait un peu. Le but, c'était pas de dire voilà quelle œuvre est de l'anarchisme ou de la science-fiction, d'essayer de faire. On veut pas rentrer dans un débat de chapelle. C'était plutôt pour montrer les liens. Qu'est-ce que, un peu comme Damasio le dit dans l'extrait avant, qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre et réciproquement, qu'est-ce qu'on peut voir comme passerelle, et essayer en fait de faire des liens entre deux milieux qui finalement se côtoient peu. On a rarement, enfin, des gens lisent de la SF comme son militant anarchiste, mais il n'y a pas forcément de grands liens entre ces deux milieux d'une manière générale, on peut dire, quoi. Et sinon, j'avais aussi préparé une sorte de petit rappel historique pour montrer que ces deux mouvements qui se sont suivis quelque part, ils sont nés tous les deux au 19e siècle. Donc pour la SF, on a tendance à choisir l'écriture de Frankenstein en 1815 à Genève comme élément fondateur, même s'il y a d'autres romans propres à la SF qui ont été écrits plus tôt. Et pour l'anarchisme, c'est 1872, l'international anti-autoritaire à Saint-Imier. Donc les deux en Suisse, c'est purement hasard, mais on a deux événements qui sont ici, pas loin de chez nous. Et on voit qu'il y a une sorte de suivi qui se ressemble un peu. En tout cas, aujourd'hui, on a tendance à voir les anarchistes un peu comme avec un regard presque condescendant parfois, comme des idéalistes, en tout cas comme une sous-culture un peu marginalisée, ou pas forcément pris au sérieux. Ils sont rentrés très tard dans les universités, étudiés comme ça un peu plus profondément. Pour la science-fiction, c'est un peu la même chose, l'élément de sous-littérature, de dire ça rentre pas dans les canons du genre, c'est des groupes un peu différents. Il y a un peu ce parallèle qu'on peut faire, le fait d'écrire des fanzines aussi, d'avoir une sorte de culture un peu alternative, underground, ce genre de choses, des films, des habillements, des musiques qui se retrouvent un peu. Mais voilà, ça c'est juste pour faire un peu un parallèle, et c'est pas forcément le but de montrer un lien privilégié entre les deux. Je pense qu'il y a énormément de choses autour de la science-fiction qui n'est pas propre à l'anarchisme. On trouve de la science-fiction de droite et d'extrême droite aussi. C'est pas du tout exclusif. Il n'y a pas un lien privilégié par nature, on va dire. Et sinon, on voit quand même une aspiration des deux côtés vers l'utopie, vers un monde différent, vers un monde plus juste, moins autoritaire. Et c'est là peut-être ce qui les relie le plus. Et je termine ma courte présentation avec ça. Et normalement, Sabine devait enchaîner, mais le timing est mal choisi. Mais voilà, si vous avez des choses à dire, ben lancez-vous. Et puis sinon, nous, on aura de toute façon de quoi parler avec ce qu'on a apporté, ou bien pour rebondir sur d'autres choses. Donc je cède la parole à qui la veut.
J'ai une question dans le montage que vous présentez, je viens de faire. C'est quoi le film, le tout premier, là, avec les lunettes?
C'est, sauf erreur, le titre en français, c'est Invasion Los Angeles, et je crois qu'en anglais, c'est Los Angeles 2035 ou 2000, quelque chose comme ça. Le réalisateur, est-ce que c'est Cronenberg? C'est ça, c'est Cronenberg.
Hein. Il est bien?
Ouais, c'est
pas son meilleur. Mais... non, ce thème-là, il est provoque.
Oui, il est assez bien sur ce thème. Après, c'est un film d'action américain. Il faut pas non plus en attendre Monts et Merveilles.
Sorti de ce qu'on a vu, il reste plus grand-chose.
Ouais, je crois qu'il a la plus grande scène de baston de l'histoire du cinéma, quelque chose comme ça.
C'est quelle année, ça?
Ouf, années 70. C'est pas 80.
70, je pense.
D'après la coupe de jeu.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a 85.
Ouais. Je n'ai pas levé la main. Pardon.
Je ne sais pas du tout. Ça, je pourrais pas dire. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce passage, il a c'est pas mythique.
J'ai beaucoup aimé l'aspect où il dit qu'en fait, faire des tracts, ça ne sert pas à grand-chose. Quoi. Et puis que si on arrive à allumer des mèches, quoi, moi j'appelle ça allumer des mèches au sein des groupes, bah forcément que ça va forcément se fédérer. Et puis le côté science-fiction, c'est que justement, on ne sait pas ce que ça va devenir. Quoi. Et c'est ça peut-être la beauté du geste. Quoi.
Voilà, c'est drôle, en préparant la soirée aujourd'hui, je suis retombé sur quelque chose que j'avais transcrit sur une conférence d'Ursula Le Guin avec d'autres. Il y a une femme, une américaine, un auteur un peu connu ici, qui s'appelle Barbara Garson, je crois, qui dit en fait l'inverse. Elle dit la littérature ne peut pas faire la révolution ni faire avancer une cause. Elle voyait un peu les limites et qu'elle rajoutait la littérature ne peut pas se substituer à l'action sur le terrain. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément un plus que l'autre, mais il y a peut-être une complémentarité en fait entre les deux approches. Et je pense que c'est peut-être que Damasio est trop optimiste par rapport au tract, et peut-être qu'elle est trop négative. Mais je pense qu'il y a un côté des deux. Mais les deux se rejoignent. Spinrad et elle se rejoignent en disant que ceux qui cherchent à vraiment faire passer un message à travers la littérature et sans subtilité, mais juste par volonté politique, c'est vraiment assez mauvais. En fait, c'est le résultat de la littérature volontairement politique ou militante est souvent assez décevant, en tout cas dans les commentaires qu'on a.
Mais comme il disait Damasio, là, c'est des créateurs de culture, et dans ce sens-là, c'est aussi des créateurs d'affinités entre ceux qui ont lu leur bouquin, parce que ça donne une connivence, des références communes. Et en tout cas, moi, je l'ai senti dans les années 70 ou 80, ça se sentait très fort. Je sais pas, par exemple, dans les années 80, c'était Mad Max ou des trucs comme ça. C'est des utopies où... Enfin, le mouvement punk, par exemple, je sais pas, il y avait cette histoire de No Future qui était liée à des trucs un peu comme Mad Max ou il y avait des films comme ça qui amenaient une dimension et qui... culture commune, marginale,
une esthétique, presque.
Une esthétique qui permet des possibles complètement décalés avec la société, avec le système dominant. Quoi.
Mais elle est toujours avec cette peur que ça va s'effondrer et qu'il y a des groupes qui vont prendre le pouvoir et que ça va être terrible, tu vois, c'est ça. Casser ça dans la tête des gens, c'est ça le plus dur, quoi, c'est que ils sont sur la défensive, quoi. Tout le monde est sur la défensive.
Mais à l'époque, c'était justement le dépassement de ça, c'est-à-dire vu qu'il n'y a pas de futur, on vit au présent. Et du coup, au présent, tu as toutes les possibilités possibles, parce que tu détournes tout ton univers, tu peux le détourner, puisque tu ne rentres pas dans les codes dominants. Donc tu peux tout utiliser pour vivre un quotidien vivable, quoi. C'est la revanche de la vie sur le système qui te promet une vie future mieux si tu te fais chier là maintenant tout de suite. Là tu dis non, maintenant on joue maintenant tout de suite, et le futur on n'a rien à foutre, il n'y a pas de futur. C'est, en tout cas à cette époque là ça a été un peu ça le moteur de l'histoire, et la science-fiction a joué un rôle, je pense que.
Moi, j'ai une question pour toi qui t'es intéressé vraiment au sujet. Y a-t-il un renversement depuis, si on prend la SF avant les années 2000, disons, pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, si on regarde Orange Mécanique, on a un monde totalement dystopique, blabla, tout ça. On peut dire qu'aujourd'hui, on pourrait bien penser qu'on y est, ou quoi. Si on prend les films qui ont eu du succès de SF, typiquement Matrix ou V, Formidable Actuel Matrix, là, on a l'apparition quand même de leaders charismatiques quand même. Il y a presque des assignations à être un héros. Et de la même manière, on ne retrouve pas... Finalement, j'ai l'impression que les gens qui écoutent et qui lisent et qui regardent ça, bah, finalement, ça se développe parce qu'on se transfère là-dedans. Il y a cet héros qui existe comme ça dans les éthers. Et puis, finalement, ça nous neutralise dans une forme de militantisme, enfin en tout cas d'engagement, qui procéderait de ce changement entre cette science-fiction qui était peut-être celle de, qu'on a envie de dénoncer, contre laquelle on a plus, je trouve, à mon sens, envie de se battre, qui est celle de l'Orange Mécanique, par rapport à celle qu'il y a maintenant, qui devient finalement, qui est peut-être presque un peu récupérée par le show au bout du compte. Même si pour Matrix, je trouve intéressant la trilogie Matrix, parce qu'on a là deux réalisateurs qui à l'époque étaient des garçons, qui maintenant sont des femmes, qui ont fait cette transition-là, et au moment où elles le font, c'est possible de le faire. Alors que dans un passé, on sait comment ça a été, la difficulté de parler de cette transition-là, mais je trouve marrant là de voir qu'eux-mêmes qui parlent d'un monde dystopique et sur lequel on peut se battre, d'une certaine manière s'affirment en faisant cette transition de changement de genre. Je trouve du coup super intéressant de s'interroger sur Matrix. Mais concernant l'analogie ou les différences entre Orange Mécanique et puis les films maintenant, je sais pas, est-ce que ça
les influences, tu dis les influences. Ouais.
Est-ce qu'on n'a pas changé de point de vue du... Tu vois ce que je veux dire de...
Ouais.
V for Vendetta et Matrix, c'est pas très actuel en même temps.
Non, c'est fait maintenant.
Non, Matrix, tout ressemble à Matrix. Depuis Matrix, on n'a pas fait mieux, quoi. Enfin, je veux dire,
au niveau action,
anticipation plutôt.
Ouais, excusez-moi, c'est ceux qui produisent le truc, ils ont un angle dont j'ai l'impression qu'ils changent. Quand on regarde justement les bouquins ou les films.
Tu dis le héros, on s'identifie au héros. Donc le héros, maintenant, le héros, c'est quelqu'un qui doit être bon en tout.
Parce que dans vrai,
avant, le héros, c'était quelqu'un qui était intelligent, un ingénieur, qui allait amener un progrès à la science-fiction. Il était quelque chose de positif.
Alors moi, je trouve qu'avant, il y avait moins.
Mais maintenant, on est sur une pente descendante. La science-fiction, elle va limiter les dégâts. Tu vois, Matrix, c'est agir dans le monde pour limiter les dégâts. On est en train de freiner, là.
Ouais, mais en quoi c'est une forme de...
Tu as parlé de... Moi, j'ai pas du tout la même lecture par rapport à Orange Mécanique.
Ah, bah, très bien.
Pour moi, Orange Mécanique, c'est vraiment l'anti-utopie. C'est-à-dire, c'est la dystopie qui amène une dimension nihiliste très forte et qui mène droit à Daesh, peut-être Daesh, ou des trucs nihilistes, c'est-à-dire de... Pour moi, c'est une rupture totale avec justement la science-fiction qui humaniste. C'est une dystopie qui amène une dimension mécanique, comme le nom l'indique, à l'humain. C'est-à-dire qui prend une logique totalement anti-naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans la nature humaine, l'hyper-violence. Comme ça, c'est pas du tout dans la nature humaine. C'est quelque chose totalement artificiel qui est en fait une...
Comme des castes.
C'est un fonctionnement de machine appliqué à un humain qui devient une machine.
Un humain.
Donc c'est totalement une rupture par rapport à la science-fiction. Orange Mécanique, pour moi, c'est une catastrophe au niveau... C'est un film de propagande. Pour la domination, c'est un film fasciste. Pour moi, c'est un film fasciste. D'ailleurs, c'était un grand malade, le gars. Il s'est soigné, lui, d'un cancer en écrivant ce bouquin. Moi, j'ai pas vu le film parce que je supporte pas. J'ai lu le bouquin. Pour moi, c'est hyper-violence et son cancer. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il le balance en tant que lecteur. Merci du cadeau, mais c'est une catastrophe. Quoi. Et l'impact n'est pas négligeable sur l'évolution de la société.
Voilà, c'est ça.
Mais le film est tellement bien.
Il n'y a pas un côté, un volet qui invite à la résistance à ça ?
Si, la prise de conscience, une fois que tu as pris conscience qu'il y avait un dominant et un dominé sur par rapport à une certaine forme d'échelle de valeur, bah, tu prends parti pour le dominé ou pour le dominant. Moi, par exemple, j'étais plutôt pour Michael.
Sur les films, tu te mets dans le même film, c'est des grosses machines de production, donc tu te mets le pour, le contre, les sons contraires, les machins, c'est complètement incohérent. Mais la cohérence du bouquin, elle est flagrante. Quoi. C'est vraiment un truc, c'est une machine de propagande nihiliste, quoi, de destruction de l'humanité. En fait.
Je t'avoue que je suis content que d'autres répondent à ma place parce que pour le coup, je suis pas tellement calé, mais je pense qu'effectivement, il y a des changements comme il y en a eu avant, Orange Mécanique. Et comme mais la figure du héros, est-ce qu'elle est prépondérante là ou après? Honnêtement, je suis très mal placé pour faire un commentaire. Je passe la patate chaude à d'autres.
Quel est le héros de demain auquel tout le monde pourra s'identifier?
No more heroes.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est ça qui est bien dans Damasio, c'est qu'il n'y a pas tellement un héros, c'est que c'est des groupes de gens. Il y a un héros plus tout
ouais,
ce
c'est
groupe.
Ça. Donc, pour faire suite à Vincent, moi j'avais envie de vous parler plutôt de. On parle de dystopie. Moi je trouvais qu'il y avait deux. Parce qu'en science-fiction, il y a des tas de sous-groupes. Hein. Vous avez le steampunk, vous avez les uchronies, c'est-à-dire on se met dans un autre univers passé. Par exemple, Hitler a gagné la guerre, ou d'autres choses comme ça. Enfin, ça, c'est pour... Parce qu'il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Le cyberpunk, il y a le space hop. Hein, ben, il y a, c'est pas ça qu'on voulait faire ce soir. Mais moi, je trouvais intéressant, par exemple, ce qu'on appelle dystopie, on l'a vu. C'est-à-dire une contre-utopie, quelque chose qui se passe mal. Alors évidemment, c'est quelque chose de très spectaculaire, surtout au cinéma. Hein, c'est ce qui sort le plus et récupéré par Hollywood, en général en l'atrophiant, en le rendant beaucoup plus... en le digérant. Hein. Et puis donc, celle qu'on connaît le plus comme dystopie, donc 1984 de George Orwell, qui à la base était plutôt une satire sociale de l'époque, une satire politique de l'époque. Vous l'avez sans doute tous lu, enfin, vous en avez entendu parler. Il y avait ça. La trame, parce qu'il y a une sorte de schéma narratif toujours en SF, il y a des codes. Hein. C'est un héros, ça peut être une héroïne hein, aussi, ou un couple de héros, qui va se révolter contre un ordre établi en général. Un autoritarisme extrêmement coercitif, répressif. Et on a, je pense que simplement le titre est assez révélateur, Soft Goulag. Pour ça, il n'est pas très connu. C'est un vaudois ou un neuchâtelois, en tout cas un suisse roman, qui avait écrit ça. Yves Vélan, qui avait dit, lui, pour lui, c'était « Je voudrais insinuer du désordre dans l'ordre rampant de la conformité ». Vraiment tout un programme et on voit, je pense qu'on peut parler d'anarchisme. Il y a quoi, dans les années 80 peut-être, pas très connu, mais il a été réédité assez récemment. Alors on a vu Damasio lui parle de l'intérêt de la SF par rapport à des avantages par rapport justement aux pamphlets, aux essais, aux tracts, je crois qu'il insiste beaucoup là-dessus. Ça incarne, ça permet d'incarner une idée, parce que je pense que chaque personnage dans Damasio aussi peut incarner une idée, ça peut être le terrorisme, hein, on va vraiment tout faire péter, ça peut être, on peut être plus modéré, on peut essayer de trouver d'autres méthodes. C'est vraiment une dissection des méthodes du totalitarisme hein, dans une dystopie. Et un être qui se révolte vraiment contre une sorte de servitude qui est en général évidemment qui est faite spectaculaire, qui est faite pour nous montrer l'horreur hein, de tous les totalitarismes, que ce soit que ça peut être le marxisme ou le fascisme. Ensuite, on a après Vélan, je pense que vous connaissez tous Philippe K. Dick. Alors là, c'est peut-être plus subtil. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai choisi celui-là, de peut-être un peu comme dans Matrix, mais de manière peut-être, moi, je trouve beaucoup plus subtile.
C'est lequel
Substance mort.
Il y en a énormément. Qui essaye de montrer que la réalité n'est peut-être pas tout à fait la réalité. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a aussi une satire, hein, je crois, de la société, même dans les films, même si on ne parle pas de films ce soir, je crois. Mais,
il y a une critique assez féroce des effets du capitalisme dans Dick, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Bon, après, il y a sa schizophrénie, il y a toutes sortes de problématiques, des questions de transcendance, existe-t-il, il y a beaucoup de choses. Enfin, il s'est interrogé sur pas mal de sujets, donc, de manière assez. C'est assez difficile à lire, hein, Dick, mais c'est pas toujours très, très. Mais c'est extrêmement intéressant. Ensuite, bon, dans Damasio, on aura toute la question technologique, parce que lui, on l'a vu, il est complètement contre. Hein. On peut avoir ce qu'on appelle le soft power, la nanotechnologie, toutes ces choses-là sur lesquelles il porte un regard qui est. Même si le roman peut être très difficile, on en a parlé avec plusieurs personnes, c'est assez difficile d'accès à cause de tout son discours philosophique qui parfois est un peu pénible, mais il y a vraiment une réflexion sur la technologie d'aujourd'hui. On part effectivement du réel. Et il y a un que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Alors, c'est un gars qui est très controversé. Où est-ce que je l'ai mis? Mon Dieu. Je ne le retrouve plus. C'est Heinlein. C'est vraiment un des. Ce qu'on appelle l'âge d'or de la. Il est où, mon Heinlein?
Il est vert.
Il est vert, justement. Mais
on a voir le Basilina, il donne dessous.
Non.
Bref. Il est justement toi, là. Le relier.
Je le cherchais en vert, voilà. Robert Heinlein, Révolte sur la Lune. D'accord, donc on est sur la Lune. Alors lui, il a été accusé de toutes sortes de choses, hein, de fascisme, parce qu'il a été militaire. Simplement, on peut se dire, comme tout auteur de SF qui se respecte, il se questionne sur le monde, hein, dans lequel il vit. Et c'est vraiment le bréviaire ou le manuel du parfait anarchiste. Si vous voulez fomenter une révolte, une révolution, que ce soit sur Terre ou sur la Lune, c'est vraiment un truc à lire parce que il nous explique comment créer des cellules clandestines, il nous explique comment faire de l'agitprop. Alors ça peut être ambigu, mais comme tu parlais d'Ursula Le Guin, qui parlait de l'utopie ambiguë, parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui va se passer, et si c'est toujours extrêmement positif, cet anarchisme, parce qu'il va y avoir plein de choses qui se passent. Le héros, c'est un héros un peu malgré lui, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on construit une nouvelle société, comment on peut se battre contre, par exemple, l'autorité lunaire, l'autorité terrestre. Alors là, ce qui est peut-être un peu gênant, c'est ce côté un peu libéral. On se bat surtout pour augmenter le prix du blé. Parce que curieusement, sur la Lune, on sème du blé. Mmh. Ensuite, on l'envoie sur Terre. Mais ça, c'est assez fantastique. En plus, il a un humour incroyable. Je pense des choses qui ne passeraient plus aujourd'hui. Ça, c'est vachement bien.
Pourquoi ça ne passerait plus aujourd'hui?
Parce qu'il y a des trucs qui pourraient passer comme, je ne sais pas, sexistes. Il y a des gags, il y a toutes sortes de choses. Et puis, il a une vision peut-être. Il essaie d'expérimenter d'autres visions, d'autres possibilités de, je sais pas, le couple, par exemple, la famille, comment est-ce qu'on envisage ça, comment est-ce qu'on envisage l'éducation des enfants. Il essaie vraiment de recréer quelque chose de tout à fait différent, libertaire, c'est vraiment de l'anarchisme appliqué. C'est assez intéressant de ce point de vue. Alors, un autre livre génial, c'est celui-là, de Ira Levin, qui est un homme. Un bonheur insoutenable, là aussi le titre est assez éloquent. C'est vraiment un totalitarisme implacable. Les gens sont drogués, au fond. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, le héros arrive un petit peu à se détacher de sa servitude. Et il va à la fois expérimenter ce totalitarisme total, hein, parce que c'est le contrôle, on doit passer des bracelets à tout instant dans la rue, si on rentre chez soi, on est surveillé à tous les niveaux. Et il va aussi expérimenter avec d'autres le goût de la liberté. Et on se rend compte que c'est pas absolument formidable non plus, et que tout ce qui peut, à l'époque où il l'écrit, mais aussi à notre époque sans doute, être insupportable se retrouve, hein, les velléités oligarchiques. Qu'est-ce qui peut corrompre l'entropie, la violence, la bassesse, enfin, tout. Et il se questionne sur les valeurs humaines, comme je pense une immense majorité des auteurs de SF. Qu'est-ce que l'être humain, est-ce qu'il y a une nature humaine, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, comment est-ce qu'on peut peut-être se débarrasser de ces choses insupportables, comment... ça vaut vraiment la peine, c'est assez incroyable, parce que j'avais...
Peut-être d'autres, si vous voulez...
Moi, ce que j'ai vraiment l'impression qu'en SF, on peut explorer une multitude de domaines qui partent, hein, on a vu, qui partent toujours du réel, parce qu'on nous dit parfois que la science-fiction, c'est une façon lâche d'écrire. Hein. Mais moi, je l'ai vu, vraiment, c'est de la lâcheté, parce qu'on ne s'occupe pas du réel. Alors que justement, on part toujours du réel pour arriver vers autre chose. C'est une extrapolation, c'est un miroir déformant, c'est une caricature, au fond. On pousse les choses simplement un petit peu plus loin. Et je crois que vraiment, tous les auteurs ont quelque chose par rapport à ça. Enfin, essayent d'essayer de trouver des solutions, parce que je crois qu'il y a jamais de solution, d'extrapoler et de voir comment ça pourrait se passer, et on voit que souvent ils sont assez honnêtes, souvent très sincères, très honnêtes, que ça pourrait très souvent se passer comme dans le Irénéville, comme dans 84, comme dans Dick, comme dans Highline. On sent que ça va mal se passer peut-être, mais qu'il y a peut-être justement cette possibilité, cette étincelle qui pourrait faire que les choses aillent mieux. On sent peut-être qu'il y a une sorte de pessimisme toujours un peu crépusculaire qui nous tombe dessus. Je crois qu'il y a peut-être une marque de fabrique. Est-ce que c'est à la fois une saine parano que d'être écrivain de SF, une conscience un petit peu trop aiguisée, ou un pessimisme totalement sans issue? Et je crois, par exemple, il y a d'autres sujets assez... Bon, ben, ça, vous avez ceux qui sont abonnés à Netflix, dont je ne fais pas partie, l'ont peut-être vu. Alors, je pense qu'il a dû être très édulcoré. La Servante écarlate, c'est une dictature puritaine. Donc là aussi, on va vers la religion. Alors, c'est pas l'asservissement de toutes les femmes.
Ça se passe en quelle année? C'est aussi science-fiction, tu dis?
Oui, bien sûr. Donc il y a des femmes qui sont comme des réservoirs qui servent de matrice. Non, il y a vraiment qui vont enfanter, tandis que d'autres se tourneront les pouces. Margaret Atwood, ben, je voulais aussi présenter des femmes, parce qu'on dit toujours que la SF, c'est un monde de mecs, d'ados souvent, mais surtout de mecs, alors que non, en fait, il y a des femmes qui écrivent des choses extrêmement intéressante. Et ou bien Planète à Gogo. Voilà, ça c'est un livre assez génial qui dénonce avec une férocité absolue tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité, tout ce qui est collusion entre les médias, entre la politique. C'est absolument incroyable, parce que c'est complètement l'actualité. Ça l'était déjà à l'époque, mais sans qu'on s'en rende véritablement compte. Et envoyer la couverture, acheter ce livre.
Et quelle année c'est
un voyage pour Vénus a
quelle
gagné.
Année a été
alors, ça, ça a été écrit en 1952. Et c'est une ironie féroce et magnifique. Par exemple.
Est-ce qu'on laisse peut-être réagir les gens?
Parce que ça, ça va.
Je pense qu'on pourra, on l'a pas fait à l'avance, mais on pourra l'envoyer par mail aux gens inscrits.
Alors, non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que ça n'a pas forcément, moi ce que j'ai choisi, ça n'a pas forcément un lien immédiat avec l'anarchisme. J'aurais pu amener beaucoup de choses d'auteurs qui sont vraiment, qui se définissent comme anarchistes, comme M. Laleguin ou d'autres. Mais je pense vraiment que le fait de se révolter ou de se battre contre un système établi autoritaire, un tout petit peu exagéré, mais qui nous rappelle quand même le nôtre, fait vraiment partie du sujet.
Est-ce que ça fait partie de la nature humaine?
Est-ce qu'elle existe, la nature humaine, justement?
Ben non. Elle existe si tu crois... pour moi, si tu crois qu'elle existe, elle existe. Comme si tu crois en Dieu, pour moi, Dieu existe pour toi. Pas de problème. Et moi, je crois pas en Dieu, par exemple. La nature humaine, ben, je me dis, il n'y a pas, non. C'est un hasard de circonstances, plus ou moins favorables pour les uns ou pour les autres, qui font qu'il y a un résultat. Mais... Parfois, tu fais partie d'un groupe, tu ne peux rien dire. Donc, tu subis complètement. Parfois, tu peux influencer le groupe. Donc, c'est quand même une nature humaine de se débrouiller en groupe.
La nature humaine existe-t-elle? L'homme est-il bon ou est-il mauvais?
Qu'est-ce que la nature humaine?
Non, on a dit qu'on évitait les débats fondamentaux.
Il n'y a pas de guide.
Pour revenir à... et la science-fiction, par rapport à, pour comparer par exemple avec d'autres courants politiques, comme par exemple les marxistes, qui sont encore récemment, quand il y avait le soutien Rojava, il y avait une personne qui était manifestement marxiste qui disait qu'enfin quelque chose de concret, on sort de l'utopie, il y avait un discours très anti-utopiste. Et c'est un peu ce qui différencie. Effectivement, les marxistes n'aiment pas du tout l'utopie, alors que c'est peut-être pour ça que quand ils ont fait des choses concrètes, il y a eu autant de millions de morts. Je pense qu'effectivement, quand la science-fiction ou les utopies, c'est aussi une façon d'expérimenter les possibilités des possibles. Il vaut mieux expérimenter dans un bouquin qu'en vrai, ça évite peut-être... Et le fait que ça soit en général, ça termine mal en général dans les bouquins, mais si, je veux dire, un livre où tout serait parfait, ce serait hyper chiant, en fait.
C'est ça. Mais c'est aussi pour ça que la dystopie a beaucoup de succès, aussi au cinéma, parce que c'est...
Et le rôle social, en fait, c'est aussi de déjouer des pièges d'idées qui semblent excellentes, et puis... Ouais, ça y est, on a tout compris, on va appliquer ça, puis ça va être le bonheur pour tout le monde. Et puis, évidemment, il y a un piège. Donc, la science-fiction va permettre aussi d'expérimenter.
Et de les déjouer, peut-être.
Je
les rassure, en fait.
Il y a un autre aspect qui moi, m'a un peu marqué quand j'ai commencé un peu à creuser le sujet, c'est que les anarchistes ou les militants, en règle générale, on cherche plutôt à voir comment arriver de maintenant à la société après. Alors que dans la SF, généralement, on est plutôt déjà dedans, quoi. Que ce soit post-apocalyptique ou autre, on est déjà dans une culture différente. Et il y a peu d'ouvrages. Et une fois, Pierre, tu m'avais posé la question pour quelqu'un qui était venu à la librairie, qui cherchait justement un livre qui fait la transition, qui dit comment on est arrivé à la société en tant que telle, comment voir les débats, les crises politiques. Et il y en a extrêmement peu. C'était hyper difficile d'en trouver. Et un des rares cas, c'est Kim Stanley Robinson, la trilogie martienne, donc Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte, peut-être les deux dernières couleurs sont versées, j'ai un gros doute. Mais c'est le seul qui est parti de l'idée de la colonisation de Mars et qui a montré tout le débat politique entre ceux qui veulent conserver la planète en tant que telle, ceux qui veulent la terraformer pour la rendre habitable, et c'est les conflits politiques que ça engendre, et les conflits, etc. Et c'est un des rares cas qui s'adresse vraiment aux questions de la transition. La plupart des autres, c'est des questions de politique interne, et c'est vrai que c'est là où elles sont un peu complémentaires, en fait, les deux approches, que ce soit l'approche militante, parce que les anarchistes ne sont pas le seul un peu dans ce créneau, que l'approche de la science-fiction. Et c'est aussi pour ça que beaucoup se sont quand même lancés dans la SF. Tu disais les utopistes. Ben, William Morris, qui est qu'on appelle un socialiste utopiste, a écrit Les Nouvelles de Nulle Part, qui est clairement un roman de SF, utopie, quelqu'un est projeté dans un futur où il n'y a plus d'argent. Ça c'est, pardon. Au 19e. Et pareil pour Joseph Déjacques, qui est le fondateur du mot libertaire, qui a écrit l'Humanisphère, qui est aussi une utopie libertaire. Donc j'avoue avoir peu de souvenirs, malgré avoir lu le bouquin il y a quelques années à peine, mais ça devient un peu difficile. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir montrer un peu à quoi pourrait ressembler l'anarchisme, mais là dans des sociétés assez idéalisées, et souvent c'est vrai que c'est moins intéressant que quand il y a un truc qui joue pas, et comme c'est le cas chez Le Guin où la société anarchiste fonctionne et elle décrit un peu ses mécanismes, mais elle montre aussi les 2-3 défauts, et c'est un des gros avantages, et c'est là où je trouve qu'elle apporte quelque chose aussi à l'anarchisme, c'est que elle montre que dans une société où il n'y a pas de loi, où tout le monde travaille, où tout le monde doit apporter de lui-même sa pierre à l'édifice, au moment où elle pose la question, elle dit « Oui, mais si quelqu'un ne veut pas travailler ?» Et la réponse, c'est ben, « Il est libre, mais finalement, personne ne le fait. » Il y a une sorte de pression sociale comme ça qui est mise par le groupe qui fait qu'on intériorise, en fait. Le fonctionnement communautaire, il est intériorisé. Il y a des interdits qui ne sont pas dits. Comme le fait de communiquer avec l'extérieur, avec la planète mère, où des gens ne sont pas anarchistes, ben les gens ne le font pas. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit officiellement, mais c'est qu'intérieurement, c'est mal vu. Il y a une sorte de l'aspect culturel, et c'est un twist assez intéressant que en tant que militant, on peut aussi se dire, bah oui, c'est vrai, c'est possible que ça se passe comme ça, si ça devait être mis en place. Quoi.
C'est aussi un peu prémonitoire par rapport au Rojava actuel, c'est-à-dire c'est des zones non réfugiées, en fait. C'est-à-dire c'est les anarchistes se regroupent et investissent des endroits où la domination, en fait, n'y est pas allée parce que ce n'était pas intéressant. Donc c'est des endroits très rudes au niveau de conditions de vie, etc. Donc c'est des limitations, elles sont matérielles. Et donc il faut bosser un max pour survivre.
Mais qui seront peut-être les Eldorado de demain.
Et c'est un peu ce qui se passe au Rojava actuellement. Là, c'est vrai que si au Chiapas, c'est des zones qui sont délaissées par le pouvoir, par la domination, et dans lesquelles on peut éventuellement créer des nouveaux mondes sociaux, c'est des conditions extrêmement difficiles parce que elles sont délaissées par le capitalisme, c'est que vraiment, il n'y a rien.
Non, mais ça dépend. Si tu fais des constructions différentes, si tout d'un coup un matériau devient incontournable parce qu'il rentre dans telle ou telle application, tu peux trouver des niches.
C'est pas impossible, c'est difficile.
Ouais. Les plus forts qui s'en sortent,
c'est un handicap. Ouais. Ouais.
Moi, je pourrais rebondir sur le deuxième thème que j'avais sélectionné par rapport à ce que vous dites. C'est ce qu'on appelle le post-apo, c'est-à-dire après l'apocalypse. Hein. Donc, il y a eu un virus, il y a eu une centrale nucléaire qui a pété. Souvent, c'est l'homme qui en est un responsable, mais ça peut être aussi un astéroïde qui est tombé sur la Terre, hein, il y a eu pas mal de choses. C'est un genre qui connaît pas mal de succès actuellement, parce que là aussi c'est extrêmement spectaculaire. Et ça permet de recréer de zéro, en fait, table rase de tout ce qui s'est passé avant, de recréer de zéro quelque chose de différent. Hein. On a donc la moitié de la population ou plus qui a disparu, donc ça facilite un petit peu les choses. Et on essaye de... Enfin, on essaie. On est obligé de tout recommencer. On a en général plus de pétrole, plus d'électricité. Donc, ce sera des communautés, des petites communautés agraires. Alors là, on est à fond dans toutes ces questions anarchistes. Et comment faire? Alors déjà, comment survivre? Est-ce qu'on a vraiment envie de suivre le modèle survivaliste? Enfin, je ne sais pas en ce qui vous concerne, personnellement pas. Mais on voit que pour beaucoup d'auteurs, ce n'est pas du tout une solution. Il y a pas mal de... Alors ça c'est de la science-fiction type, hein, John Wyndham, Le jour des Triffides, ils en ont fait aussi un film. Alors se rajoute à l'apocalypse, se rajoute le fait qu'il y a des plantes étranges qui attaquent l'homme. Alors après on peut voir, est-ce que c'est une métaphore d'autre chose, parce que c'est souvent ça, hein, c'est des questions de métaphore. Et une cécité des gens qui ont vu, est-ce que c'est un astère, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, les gens deviennent aveugles sauf ceux qui ont été protégés. Donc ça rajoute pas mal de choses et on essaye, c'est des communautés agraires qui essayent de recréer un lien social, de recréer quelque chose. Les villes, on imagine bien, les grandes villes ne sont plus habitables pour toutes sortes de raisons. On ne va pas évoquer ici. Comment est-ce qu'on s'organise sans gouvernement, sans pouvoir central? Il n'y a plus de système monétaire, il n'y a plus de système d'égout, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on se débrouille déjà pour survivre, pour manger? Alors, des boîtes de conserve, la première année. Après, il faut réapprendre l'agriculture pour ceux qui... Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Il y en a plusieurs. David Breen, bon, après, il a pris un côté un peu transhumaniste, mais dans le facteur... C'est un gars, ils en ont fait aussi un film avec Kevin Costner, je crois. Je ne l'ai pas vu, je ne tiens pas à le voir. Mais le livre est extrêmement intéressant de voir. Ben voilà, on reconstruit quelque chose. Il y a des communautés qui essayent de vivre sans gouvernement, d'essayer toutes sortes de possibilités de recréer d'une société. Et un gars qui est le facteur qui recrée, si on veut, le système postal, qui a donc totalement disparu, le Pony Express en l'occurrence, puisqu'il le fait à cheval. Et ces communautés se battent contre d'autres qui sont justement des survivalistes. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir cette espèce de guerre entre des gens qui choisissent de recréer toutes les horreurs du capitalisme et d'autres qui essayent un mode de vie autonome, autogéré, différent. Et de voir qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça. Est-ce que ça peut bien se passer, mal se passer, c'est assez chouette. Et un autre que j'avais envie de présenter, alors elle cumule, je parlais d'un monde assez masculin, c'est Octavia Butler, pour ceux qui connaissent peut-être. Elle est morte il y a une douzaine d'années. Donc c'était une écrivaine, une femme afro-américaine, parce que la science-fiction, c'est pas juste des Américains. Il y a des Chinois, des Indiens, enfin, c'est, je pense que le monde entier écrit de la science-fiction pour toutes sortes de raisons, parce que ça permet aussi de contourner la censure, parce que ça permet de s'exprimer d'une manière qui est indirecte, l'imaginaire aussi, l'imaginaire culturel tout simplement. Lesbienne, donc elle se pose beaucoup de questions sur les questions de genre. Le féminisme, quelle est la place de la femme. Son héroïne est une jeune noire de 15 ans. J'en avais parlé à quelques-uns d'entre vous. C'est, je pense, le roman de science-fiction le plus noir que j'ai jamais lu, pour dire. Vraiment, c'est assez atroce, tout ce qui se passe. On est dans le post-apo, c'est effrayant. On essaie de recréer des communautés qui sont régulièrement... douchée, violentée, dans tous les sens du terme. Et il y a quand même ces lueurs d'espoir que sont, et ce qui est le plus important, je crois, c'est donc la coopération, la solidarité, l'entraide. Et c'est vraiment ça qui donne des petits moments de beauté. Et on se dit que c'est là-dedans que réside peut-être la possibilité humaine de survie si effondrement il y a. Et donc, c'est évidemment une métaphore de l'époque dans laquelle elle vivait, de l'héritage reaganien, du libéralisme à outrance. Alors on trouve des scènes de barbarie, de férocité, de cannibalisme, mais qui sont, à mon avis, vraiment une pure métaphore de l'époque dans laquelle on vit, les minorités opprimées. Et c'est vraiment... je ne veux pas dire chouette, non, c'est pas chouette, mais c'est... Il y a une suite que je n'ai pas lue, mais c'est vrai que moi, ça m'a prise à la gorge. C'est là qu'on voit que la SF peut avoir vraiment quelque chose d'assez fort, de plus que fort. Est-ce que le monde de demain ressemblera à celui d'aujourd'hui, mais en pire, peut-être.
Parce qu'on a déjà eu aussi cet exemple de Road.
Voilà, alors on en parlait. Pour moi, c'est mille fois plus sombre et plus désespéré, plus noir que la route de Et c'est une femme, donc issue d'un milieu très modeste américain, qui l'écrit.
William, tu avais une question.
Oui, vous n'avez pas présenté le BD. Du coup, parce que la sève dans les BD, il y a quand même pas mal. Quoi. Et puis, ça la rend d'une certaine manière aussi très accessible. Et en même temps, derrière la BD, moi, ce qui me plaît dans la SF, c'est que ça a la qualité de son défaut ou l'inverse. D'ailleurs, Damasio, il parle de Cassandre au début. Le fait d'être condamné à dire des choses est déjà vrai, mais à jamais cru. Et je trouve marrant parce que la SF, finalement, je trouve qu'il y a un créneau là-dedans où la SF, je trouve qu'elle brille. C'est que, ben voilà, il y a plein de choses. C'est pour ça que je parlais avant, justement, de ces romans un peu dystopiques, dont, pour lesquels on pourrait presque se croire maintenant dedans, en fait, assez concrètement. Et alors, dans la BD, ben, typiquement, moi, je vais citer, je ne sais pas si des gens connaissent, mais il y a une BD qui s'appelle SOS Bonheur. Qui est vraiment fantastique parce que. Alors voilà, je trouve qu'elle. Parce que je sais pas quand elle est parue, peut-être dans les années 70 ou 80, je sais pas.
Ils viennent de faire une suite.
Ah, c'est vrai?
Oh, oui, ils viennent de faire la suite.
Ouais. Et très concrètement, à l'époque, c'est une totale dystopie. Donc c'est l'assurance maladie, enfin un monopole, enfin je sais pas si quelqu'un vous a très précisé, mais en gros, on est à l'aune de ça. Alors qu'au moment où c'est écrit, c'est vraiment, justement, on peut se dire, c'est inimaginable. Et ce qu'il y a, je trouve, d'intéressant dans la SF, justement, c'est qu'on peut, on peut s'interroger tous azimuts, et puis on peut, dans les trucs d'anticipation, c'est pour ça que je trouve intéressant de nouveau, j'en reviens à Matrix, cette espèce de dualité entre des gens réels qui, en fait, sont en train de vivre leur utopie concrète, donc des deux réalisatrices de Matrix, et en même temps, on ce détachement et propose une lecture du monde terrible.
Il y en a, excusez-moi, c'est une qui est, enfin, un qui est devenu une, pas
non, les deux.
Non, les deux.
Mais
les
tout
deux.
Récemment
Lana et Lana. 2016. Les deux.
Lana et Lily.
Wachowski. Ah, moi j'étais restée avec.
Et elles ont fait leur premier film ensemble. Ce que j'en parle, c'est qu'il y a une utopie concrète d'elles dans leur vie, dans leurs existences, qui rejoint une certaine partie, cette espèce de projection qu'elles ont faite via la philosophie matrice. Ah, et je trouve ça super intéressant parce que je trouve qu'il y a une convergence.
Sachant que, donc, comme ils ont réalisé cette trilogie que tu peux considérer comme une mini-série, on va dire, est-ce que tu as regardé Sense8, leur première mini-série en tant que femme? C'est exceptionnel parce que dans Matrix, tu as un héros qui finalement est détruit par son rêve d'être un héros unique. Et dans Sense8, c'est le groupe qui devient le héros. Donc, à voir.
Sense8, SNSAT.
Non, SE, et puis ensuite un 8.
Sense8.
Ah,
ah,
d'accord.
Sense8. Excellent. Enfin, voilà, je trouve que dans la BD, il y a effectivement là aussi des angles intéressants et des créneaux un peu à l'égal de certains livres qu'on écrivait un petit peu sous couvert et qui sont intéressants à revisiter. Après, moi, je ne sais pas, je n'ai pas tant que ça dans la tête. Et puis la deuxième remarque, je fais vite. La deuxième remarque que je trouvais intéressante, dont vous parliez tout à l'heure, c'est la ligne ténue, le fil du rasoir sur lequel on est lorsque on parle de mieux aller, d'une certaine manière, utopie, et justement du moins bien aller, de, voilà, de sombrer dans la dystopie. Les phalanstères, Fourier, sur le papier comme ça a l'air d'être. Enfin, moi j'ai toujours été plutôt fan de tout ce que j'ai lu, ça fait un moment, donc j'ai un peu oublié. Et donc, alors, est-ce que justement ça ne peut pas verser dans quelque chose de dystopique? Le phalanstère, finalement, on est tous un peu dans un monde un peu reclus, où les gens connaissent les gens, comme tu disais Vincent tout à l'heure, finalement l'un est le contrôleur de l'autre, aïe. Et puis, autant quand on lit typiquement pour la prison, on s'interroge tous sur la fonction et l'horreur, quelles que sont les prisons, Bentham, le panoptique, et Beccaria, eux, ils ont en tête quand même, il me semble, une volonté d'aller vers le mieux quand même. De dire, bon, on pratique l'incarcération, mais on tente d'y mettre un peu de main. Et je me demande si pour vous, typiquement, les phalanstères, le panoptique, Beccaria, du délit des peines, des choses comme ça, ça procédait de l'utopie, de la dystopie ou hors sujet?
Vas-y.
Mais c'est une utopie, on pourrait dire qu'une utopie réalisée, elle va pas marcher. Donc ça, c'est une utopie sur le papier, on peut lire Thomas Mann, j'avais lu toutes les utopies, elles peuvent être passionnantes ou mais le truc c'est qu'elles sont figées, elles ont une fin qui n'est pas dépassable, contrairement je pense justement à un roman de science-fiction qui, où il y a une possibilité de continuité, d'échec ou de succès, mais l'utopie elle est indépassable. Alors elle est très intéressante dans le sens où elle permet d'ouvrir et de réfléchir, mais elle est terminée, elle est non négociable. Peut-être.
Mais par rapport à Fourier, lui il pose les. Il fonde en fait. Lui dit. Il fonde déjà sur l'écart absolu. Il dit voilà, des siècles, des millénaires de philosophes nous ont amenés dans la situation actuelle qui est catastrophique. Il postule l'écart absolu par rapport à tout ce qui s'est fait au niveau de la pensée. Il se met en décalage. Donc c'est aussi une posture un peu de science-fiction. Et en fait, voilà, il reprend tout à zéro et il dit que voilà, les cinq sens, pour chaque sens, le goût, l'odorat, le bruit, le toucher, etc., il remarque qu'il y a des gens passionnés qui sont plutôt sensitifs, qui sont plutôt dans l'ouïe. Il y a les cinq passions fondamentales qui sont liées au sens. Et puis après, il y a des passions qui sont liées qui sont des passions sociales, le plaisir d'être ensemble, il y a d'autres passions sociales qui sont en fait, lui il part du postulat que le monde est parfait et que, alors il parle de Dieu, mais bon, ça peut être, il dit voilà, Dieu a créé un monde parfait, et en fait, son Dieu c'est pas du tout le Dieu de catholique machin, c'est plutôt une image de la nature, il y a une mécanique un peu comme en musique, il y a des notes avec les harmoniques, etc. Lui postule l'harmonie, c'est-à-dire il dit voilà le monde, simplement il faut retrouver l'harmonie, et donc si on connaît la mécanique des passions, il y a justement comment ces passions s'assemblent et comment. En fait, lui, ce qu'il dit, il est précurseur de la psychanalyse à ce niveau-là. C'est-à-dire, il dit si une passion, elle peut s'exprimer en toute liberté, c'est là aussi où il est libertaire, si elle s'exprime dès l'enfance en toute liberté, elle va vers un essor libre. Tandis que si on la réprime, par exemple, sur un gamin qui est gourmand, on lui tape dessus, etc., il va aller. Piquer les pots de confiture en cachette, et là tout de suite il y a le vice qui commence, la passion elle est détournée, et au niveau social ça amène à des conséquences catastrophiques, et donc il postule la liberté au départ, et après il imagine comment un monde pourrait et après ça amène une, il faut vraiment lire ces bouquins, ça amène une complexité, il imagine une complexité de composition sociale qui est bien loin d'être explorée, même si on rassemble tous les bouquins de science-fiction, on est encore loin du compte. C'est un foisonnement de.
Mais dans sa perspective, il y a un moment où ça vient, où ça reste du domaine de l'utopie pure.
Non, lui, pour lui, c'est un projet social. Voilà, simplement, c'est un projet radical. C'est-à-dire que ça doit venir par l'éducation, ça doit venir. Il pose le problème de la transition, et il dit voilà, il faut. Après, tu as des abrutis comme Jésus. Hein. Le Jésus, il était peut-être génial, mais les autres, après, ça craint, quoi. Et puis là, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire, lui, effectivement, il est assez génial dans ses écrits, mais considérant, tu vois, c'est un considérant d'ailleurs, et qui a repris, ceux qui étaient les plus prosélytes de sa. Ils ont amené une note puritaine dans son truc, pour le fait que le nouveau monde amoureux, qui était un peu un pivot de sa théorie a été censuré par les mêmes qui promouvaient ça, le fourierisme. Et puis voilà, donc c'est venu justement sur des trucs comme les phalanstères et machin qui sont des casernes améliorées, quoi. Mais au départ, c'est vraiment, lui, il imagine des cours d'amour, des trucs de... Enfin, c'est vraiment un gros délire, c'est fantastique. Comme, dans aucun bouquin de SF, j'ai pu ressentir un tel foisonnement, quoi.
Moi, je trouve qu'on y retrouve un peu dans le film de Colin Serrault, la Belle Verte.
Voilà, oui. Ouais. Ça peut donner un peu une facette. Mais il y a une autre facette encore.
C'est parce que tu n'as pas assez lu de SF. Parce qu'il y en a quand même. Hein. Ouais. On peut trouver des gens de... Moi, je voulais juste te dire un truc parce que on a parlé de pas mal de choses. C'est Valérie qui m'a prêté ce livre. Alors elle me dit que la suite est... Je lis ça tout récent, Hames Nam Nexus, et j'arrive horrifiée à la fin en me disant c'est une apologie du transhumanisme véritablement. On peut imaginer hein, tous ces gourous de la Silicon Valley qui ont peut-être trop lu de SF ou qui l'ont lu au pied de la lettre. Quelque chose d'épouvantable en fait par un tour de passe-passe. Hein.
Une drogue, ouais.
Oui, mais c'est quand même un tour de passe-passe. On arrive à faire croire que ce qui est humain, ce qui est subversif, ce qui est anarchiste, ce qui est beau, ce qui est génial, c'est de ne plus être humain. Donc des implants, donc toutes sortes des puces, des choses injectées. Voilà. Le transhumanisme, hein, comme vous l'avez peut-être déjà. Et ça m'a assez révulsée, je dois avouer. Et je me suis dit, voilà, l'antidote, le fameux Norman Spinrad que vous avez vu tout à l'heure, qui écrit Jack Baron et l'éternité, et qui est justement une sorte de réquisitoire contre, à la fois contre le transhumanisme, qu'il écrit il y a déjà pas mal d'années.
Depuis 40 ans.
En 69. Et à la fois, parce que souvent les auteurs ils se limitent pas à un thème, donc à un réquisitoire vraiment terrible contre le. Toutes les transformations de rendre l'être humain non humain, finalement, inhumain, et contre la collusion de nouveau entre les médias, notamment la télévision, et la politique. Et ça fait du bien. Parce que, en fait, l'idée, c'était de présenter aussi les dangers. Hein, on a vu, par exemple, Ursula Le Guin, qui a vraiment une finesse, une intelligence, une subtilité incroyable quand elle présente, elle est vraiment anarchiste. Enfin, et elle nous montre qu'en fait, sur sa planète, comme le disait Vincent, il y a des choses qui sont extraordinaires. L'égalité, il y a chacun du travail, enfin, sauf ceux qui n'en veulent pas, mais chacun a à manger, même si c'est une planète aride sur laquelle on survit plus qu'on le vit. Et le héros est amené, c'est ça qui est toujours très intéressant, c'est quand on voit les deux facettes, le héros est amené à se rendre sur Ouras, donc la planète d'origine, la lune d'origine, et il se rend compte qu'il y a des choses qui sont quand même assez sympas, notamment la beauté. Et je me rappelle d'une scène assez incroyable où il s'assied sur une chaise, et il se rend compte que ce n'est pas juste une chaise utilitaire comme il y en a sur sa planète. Elle est belle, elle est confortable. Et il y a comme ça toute une espèce de dilemme de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qu'on pourrait sauver quand même? Des choses qui sont intéressantes, je ne vais pas dire dans le capitalisme, mais notamment la beauté, l'art, alors il y a des choses horribles, comme les femmes qui sont plus que des poupées sexuelles, sexualisées, des choses épouvantables. Et une planète qui évite, par exemple, tout ce qui guette peut-être une société anarchiste, c'est-à-dire la sclérose, la bureaucratie, l'entropie, la volonté hégémonique ou oligarchique de certains, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront envie tout à coup de prendre le pouvoir, hein. Des choses comme ça. Et c'est très bien amené de voir que finalement il y a quand même des choses qui sont intéressantes, qui sont belles, justement la beauté, l'art, la liberté de penser, qui n'existent finalement pas sur sa planète parce qu'elles ont été éradiqué par une vie un peu trop dure. Voilà.
sauf erreur, quand il revient, il rencontre les groupes militants, non, justement, les groupes militants de la gauche radicale de cette planète d'origine. Il y a un peu une sorte de confrontation entre ceux qui ont accompli la transformation et ceux qui sont encore dans la volonté d'aider. Je ne sais plus s'il a un regard critique ou pas. Ça, je l'ai lu il y a trop de temps pour me rappeler de ça, mais c'est vrai que ça m'a aussi marqué ce côté de rencontre, en fait, entre ceux qui ont accompli la transformation et puis les gens. Je ne sais plus s'il y a aussi une sorte de côté prétentieux des gens de cette ligne qui ont changé la société par rapport aux autres qui sont restés sur place, parce que c'était aussi une sorte de schisme comme ça, assez important, quoi. Moi, je voulais juste revenir, tu posais la question sur les utopies, dystopies, et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent, ceux qui ont pensé les utopies, ils les ont mis un peu en séparés du monde. Il y avait une volonté de se protéger, donc c'est soit sur des îles comme Thomas More ou d'autres, soit sur des lieux fermés comme les Phalanster. Et je pense qu'à partir de là, du moment qu'il y a de toute façon des murs, ou que c'est quelque chose de figé, au moment, ça tourne vers la dystopie, forcément, parce que ça ne peut pas évoluer. Il y a cette idée que l'utopie, elle est figée. C'est ce que tu disais, Sabine, justement, quoi. Et que la seule utopie qui pourrait éviter ça, c'est une sorte d'utopie adaptive, ou une utopie mouvante, ou une utopie un peu qui se remet en question continuellement. Ouais. Et ce serait peut-être le seul moyen d'éviter cette perversion de l'utopie. Mais souvent, c'est hors sol, c'est que ce n'est pas les gens qui se lancent eux-mêmes, c'est quelqu'un qui pense l'utopie, puis qui met les gens dedans après, quoi. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça, les anarchistes, ils l'ont aussi pensé de la même manière, on va dire. Ils ont aussi fait cette critique du modèle imposé, finalement.
Moi, je pense à un bouquin que vous n'avez pas mentionné. Je ne sais pas si... Je pense que vous avez connu le Bolo Bolo.
Ah oui, il est là.
Moi, ça, c'est vraiment... une espèce de mode d'emploi qui parle d'un monde de fiction, mais qui est réel, pour arriver à un monde libéré, quoi. Puis, il y a justement cette espèce de vision... d'un monde totalitaire dans lequel on part, qui est un seul truc, je crois qu'il commence en disant le système, je sais pas, il y a des formules très choc comme ça, la planète c'est un seul animal, je sais plus comment il dit, il y a un monstre global qui bouffe en Afrique, qui chie en Asie, et tout. Puis de là, il y a comme des organes qui se séparent du truc, mais à chacun à leur manière, il y a vraiment un truc... de retrouver une diversité et un non-contrôle, comme des organes qui se libéreraient de leur rôle d'organes pour redevenir des entités, je sais pas, mais des collectifs, des trucs. Hein. Moi, c'est un bouquin qui me parle tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est une grille de compréhension ou de... C'est un
fondamental. Et on retrouve la création...
La création de communautés, avec tout un réseau de communautés, c'est parti de Zurich.
Et Spinrad disait la création d'une culture. Bon, là, on est exactement dans cette démarche-là. Il recrée un langage, il recrée des manières. Et c'est vrai que là, le croisement, il est assez fort. Ça peut être un bouquin de SF autant qu'un essai. C'est vrai qu'il manque que l'histoire, finalement, ou les personnages, si vous voulez, mais dans la démarche, on est vraiment donc auteur suisse, PM, mais c'est vrai que c'est assez fort.
Assez fort, ouais. Pour en revenir à Fourier, lui, il pose aussi la question d'échelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible avec quel nombre de personnes. Et donc là, il amène, parce qu'il amène un je sais pas, il parle, évidemment, lui, il donne des chiffres exacts, il dit à partir de plus 3000 personnes, c'est possible de faire parce que tu as tous les caractères qui se retrouvent, qui font l'harmonie. En fait, il faut qu'il y ait une diversité qui... Ouais, c'est un peu fondé sur une mathématique comme ça, de courbe de Gauss, etc., des trucs... Il faut qu'il y ait
un environnement défini.
Il faut qu'il y ait un mélange alchimique comme ça pour que une société puisse recréer une harmonie comme ça.
Une taille en
fonction. Une masse critique.
Ouais. Et il dit que voilà, les élans, donc lui il appelle ça un peu une passion, c'est-à-dire ce qui entraîne les gens. Répond aux besoins de l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait, naturellement, il n'y a pas besoin de travailler parce que les gens vont faire ça par passion. Imagine, alors il parle aussi de secte, c'est-à-dire les gens se regroupent par affinité, il appelle ça des sectes, parce que c'est des fanatiques de, par exemple, la poire, c'est des gens qui sont obnubilés par une variété de poire et qui vont tout faire pour la cultiver parce que c'est un goût qui. Et après, il parle de passion composée, c'est-à-dire. Dans l'amour, par exemple, bon, ben, t'as le sexe, c'est déjà une passion sensuelle, quoi. Mais après, si t'as d'autres passions sociales où elles rentrent en harmonie avec d'autres passions, ça ouvre une dimension totalement...
insoupçonnée.
Voilà, insoupçonnée. Donc, voilà. Donc après, t'as le... L'utopie, c'est justement quand toutes les passions sont en harmonie, ça décuple les champs des possibles, des plaisirs et puis de jouissance. Et ouais. C'est un truc.
Paradis, quoi.
Plus que ça, parce que le paradis, il est fini, les possibilités sont finies. Une fois que t'as je sais pas combien il y a de vierges ou de machin, je veux dire, bon, ben voilà, c'est limité, tu vois, il y a un nombre limité, tandis que là, t'as des possibilités qui ne se limitent pas simplement à la misère des paradis qu'on nous présente.
Je crois que c'est ça, tout l'enjeu, c'est qu'on le fasse par des livres. Alors, je ne sais pas si vous écrivez, ça m'intéresserait de le savoir, s'il y en a parmi vous qui écrivez, parce que vous en parlez tellement bien, la science-fiction, je vous le dis, que vous pouvez en écrire. Et, mais, oh, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé.
Alors, on va peut-être participer aussi.
Tu cherches aussi des trucs. C'est où, ça alors, on n'a pas parlé de lieu géographique. On a la Cour des Miracles, les Pays de Cocagne, on a un géographe à l'art. Est-ce que dans la sphère comme ça de la science-fiction, parce que là on a entendu, on a des mondes qui sont extrêmement éloignés comme Mars, quoi. Mais y a-t-il des utopies que l'on peut rejoindre, genre ce soir, à la fin de la semaine? Est-ce que on sait s'il y a des trucs qui sont situés de manière assez concrète, des lieux comme ça d'utopie? On a la fameuse île de Thomas Mann, vous disiez. Mais est-ce qu'on connaît, ce qu'il y a dans le champ littéraire de SF, des guides comme ça pour rejoindre le lieu?
Mais de l'utopie ou de la SF? L'utopie, en général, justement, elle n'a pas de
ouais,
lieu.
Effectivement.
Mais en SF, ça peut être la Terre, ça peut être des planètes inconnues, ça peut être la Lune, Mars. Ça peut ne pas avoir de lieu, mais est-ce qu'on peut la rejoindre? Il faudrait quelques milliards d'années. C'est un vaisseau spatial.
Moi, j'ai peut-être deux exemples à citer. Le premier, Robert Silverberg, les monades urbaines. C'est plutôt de la dystopie, mais effectivement, c'est l'idée d'avoir des grands immeubles énormes avec tout le reste qui est plutôt, enfin, plusieurs grands immeubles et le reste c'est des champs. Et les champs alimentent. Et l'idée c'est d'avoir comme ça une sorte de vie communautaire au sein de grands immeubles. Donc ça c'est peut-être un des lieux possibles.
Mais où est-ce qu'il se situe?
Mais où est-ce qu'il se situe? Dans l'immeuble. C'est ça. Non, après, le problème, c'est que la manière dont il décrit, il montre plutôt le côté pervers de la chose et le côté. Parce qu'il y a une hiérarchie, plus on est haut dans l'immeuble, plus on est haut dans les classes sociales.
On a de beaux légumes.
Ouais, et puis. Sinon, il y a partout. Marion Seymour Bradley, la vague montante, dans une collection d'un auteur engagé, Le Passager clandestin, qui fait plutôt sur l'écologie, ce genre de choses, mais il a une collection dystopique. Et là, effectivement, c'est un peu l'idée de... Ils reviennent sur la planète Terre, qui a été grandement vidée de sa population, et du coup, la nature a repris le dessus, il y a la profusion, etc. Donc l'utopie, c'est aussi la Terre, mais souvent moins peuplée, souvent rendue à elle-même, où il y a un peu ce côté-là de post-apocalyptique de nouveau. On a comme si l'humain était un peu le cancer. Il y a quand même cette vision qui est assez récurrente. Ouais, chez des auteurs pas forcément engagés, mais l'idée que l'utopie, elle est là quand on a de nouveau un peu d'espace pour faire ce qu'on veut et qu'on a de la nourriture à profusion et puis que le travail devient... Enfin, l'idéal de la société chasseur-cueilleur un peu qui revient aussi avec les avantages et les défauts, quoi. Mais sinon, j'ai pas, à part les planètes lointaines, moi, j'ai pas tant de souvenirs. Ou alors l'utopie à la Matrix, où c'est justement une sorte de pseudo-société qu'on te rajoute par-dessus les yeux, quoi. Qu'on te fait oublier par des drogues ou d'autres choses. Ça, c'est souvent le cas dans Le meilleur des mondes de Huxley, c'est ça. C'est l'utopie par la drogue, quoi. On te donne la pastille et puis tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes, sauf que c'est de nouveau pas vraiment le meilleur des mondes.
Il y en a une qui n'a pas très bien marché il y a quelques années, c'était Second Life.
Délicatessen, moi je trouve intéressant parce qu'il y a un humour. Mais alors, est-ce l'utopie ou la dystopie? Parce que du coup, on survit dans un monde post-apocalyptique, comme vous disiez, mais on arrive quand même à vivre dans Délicatessen. Le gars, il mange ses escargots.
Voilà. Attends, le gars, il mange les escargots. C'est du cannibalisme, quand même. Hein. On va dire pour ceux qui l'ont pas vu.
Ils aiment les humains. Ça, je trouve assez intéressant, ce côté extrêmement auto-dérisoire, finalement. Ah, il est génial.
Oui, il est génial.
Ça, c'est un film-film ou ça vient de quelque chose d'autre, ça? Un bouquin?
Moi, c'est un film.
C'est
un film.
Il y a un dessin animé, très ancien,
qui
s'appelle
Le Roi et l'Oiseau.
Oui,
c'est
un film pour les enfants, mais pas seulement pour les enfants, mais qui est fantastique. C'est vraiment un super film de SF. Le Roi et l'Oiseau, c'est super.
Et puis, l'histoire de Matrix, pour moi, c'est vraiment une métaphore de la société du spectacle. C'est-à-dire, c'est vraiment le genre de SF qui analyse la domination sous ses formes actuelles. C'est-à-dire, où, en fait, le monde... On a une vision du monde qui est tramée et qui, en fait, est un échafaudage spectaculaire. Quoi. C'est-à-dire que si on arrête de marcher, il y a tout qui s'effondre. La réalité s'effondre et voilà, tu te retrouves clochard parce que tu arrêtes de croire au spectacle. Si tu arrêtes de croire au spectacle, c'est comme si tu étais en train de marcher dans le vide, comme dans les dessins animés. Puis donc il y a pour moi, Matrix, c'est un peu ça.
Moi, juste par rapport à l'utopie, ça me titille un peu parce que j'ai l'impression que la réalité, c'est que le résultat des utopies d'avant. C'est que des utopies. Tout ce qu'on est là, c'est que le résultat de gens qui ont voulu l'avoir. Alors que c'était impossible de l'avoir, ils l'ont fait, ils n'ont jamais lâché, ils avaient leur utopie, ils voulaient que ça finisse comme ça, ils n'ont jamais lâché. Puis, c'est la réalité de maintenant.
Une utopie ou une dystopie?
C'est-à-dire, dystopie, pour moi, c'est... Pour moi, les deux, n'importe quel système, il a son pendant. Parce qu'il y aura des gens qui ne rentreront pas dans les cases, quoi. On ne peut pas faire un système pour tout le monde. Donc, le système, il faut qu'il prenne en charge tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde trouve son compte. C'est ça. C'est ça, l'utopie, pour moi.
Récupérer pour rentrer dans le cadre. C'est-à-dire, effectivement, il y a une aspiration des gens, une aspiration à
faire autrement pour arranger les choses.
Avoir de la liberté, mais on te vend de la liberté. En fait, on te file à la place un libéralisme pas possible.
Oui, mais s'il ne pollue pas...
Le peuple, il dit, bon, la liberté, ça ne marche pas, ça donne un système, ça donne le capitalisme, alors nous, on peut... finalement, on veut la légalité, puis on te vend un machin qui c'est soit le fascisme, soit le communisme, soit un système qui... À chaque fois qu'il y a une la fraternité, la fraternité, ça c'est bien, on te file la religion. C'est-à-dire qu'il y a toujours un produit qui est un ersatz fabriqué.
Oui, mais quoi que tu fasses.
Avec l'original.
Quoi que tu fasses.
Non, quoi que tu fasses, c'est le système qui produit ça à la demande. et tu as une demande et on te produit un ersatz, etc. Parce que le système, il peut pas produire la réalité. Si tu veux de l'amour et de l'amitié, du bien-être et du bonheur, le système, tu peux pas te le jeter, il peut pas te le vendre.
Donc, si, au Japon.
Hein, au Japon, par exemple. Il peut te vendre l'image du bonheur. Tu vas au salon de l'auto, tu auras l'image du bonheur.
Et pourquoi tu dis au Japon ? Non, parce que tu peux acheter des amis, louer des amis, des amoureux, tout ce que tu veux. Ça viendra ici aussi. Ah oui, chez nous.
Avec la
pompe. On vit dans un monde de
je sais pas. D'échanges, d'interactions et tout qu'on ne gère pas. C'est à nous de prendre des impôts.
Moi, j'ai plus des injonctions dans. De nouveau, pour en revenir à la question de départ, moi j'avais, c'était dans les films comme Matrix ou quoi. Moi j'adore ces films. Mais je trouve qu'ils sont fabriqués de manière à ce qu'on se délasse beaucoup et on dit waouh, c'est l'apogée de la résistance et tout. Mais ça reste du domaine de l'inaccessible parce que ce sont des avant-gardes ou des héros extrêmement. Des super-héros, des gens auxquels on ne peut pas s'identifier ou ne peuvent pas être une sorte de.
Divergente aussi.
Mais Matrix, tu parles du film américain avec Keanu Reeves, c'est ça, Matrix ?
Ouais. Ah, ok. Enfin. Je trouve que c'est des. Moi, j'aime beaucoup cette trilogie, je la regarde encore et j'adore. Mais disons, elle, au bout du compte, elle réduit ma faculté à être subversif et à transformer le monde. Parce que c'est du domaine de l'inaccessible, de l'utopie, finalement, au bout du compte. Mais tellement inaccessible, ces gens qui résistent héroïquement, mais. En faisant des pirouettes.
Non, mais c'est au second degré.
Non, c'est pas ça, c'est produit par
américain.
Voilà. Oui, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. C'est ça. Second degré américain produit par une entreprise américaine.
Il a d'ailleurs une injonction.
C'est de la récupération. Je veux dire, tous les bouquins de science-fiction, ils digèrent ça et ils en font un produit de masse qui est en fait qui va à l'en. C'est
nouveau, oui, mais de ce produit, il va tout d'un coup y avoir quelqu'un dans le Kazakhstan qui va devenir écrivain.
Perspective révolutionnaire, ça t'amène dans les pièges, dans tous les pièges
de conditionnement de pensée.
Mais justement, tu disais V for Vendetta, tu le mettais dedans, et je pense que justement, V for Vendetta, il est moins comme ça, parce que c'est pas le héros qu'on a vu qui part, qui fait la révolution. Il meurt avant, et c'est justement les gens dont il a éveillé la conscience qui.
D'ailleurs,
il a le masque. Et c'est vrai, moi, quand je me rappelle avoir vu ce film au cinéma, il m'est sorti, il me dit, il m'a dit, mais tiens, ça c'est. Étonnamment, un film subversif qui sort de ça. Il y en a.
C'est là l'extrait que.
Oui.
Avec le masque.
Ouais, avec le masque.
Mais regarde. Regarde les gens comment ils sont. C'est pas du tout la façon naturelle des. Je veux dire, les gens, la plupart des gens, quand tu vois un Gugus comme ça qui parle comme ça, déjà là, les gens ils comprennent pas. Ils disent qu'est-ce que c'est Stocard. T'en as au moins sur une. Là, les gens ils sont scotchés, puis tout le monde capte, et puis ils sont tous sur la même longueur d'onde, ils comprennent.
Mais
tous.
Ils comprennent pas.
La réalité, c'est pas ça. La réalité, non, c'est que. Mais c'est quoi ce Gugus? Qu'est-ce qu'il nous. On comprend rien à ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est ce connard? Allez, casse-toi, on veut les femmes machin, ou les trucs. Ouais,
je dis pas c'est juste pas.
Dans ce film-là, il y a qu'une seule chaîne de télé.
C'est totalement
donc. Non mais je dis pas que c'est réaliste, mais je dis que le message il est moins héroïque. Exactement.
Il a quand même évacué.
Oui, mais dans ce film-là, il n'y a qu'une seule chaîne de télé qui est contrôlée par l'État, et tout à coup, il y a quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas qui prend le contrôle et qui parle. Donc tout le monde est surpris parce que c'est pas le présentateur habituel. C'est pas un pays où il y a 50 chaînes où on zappe et puis on s'en fout.
Ça pourrait être un test pour voir si t'es sage ou pas. Donc tu te tiens tranquille.
Juste avant, on voit dans la maison de retraite des gens qui tapent sur la télé pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Il y a quand même ce truc des gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont quand même mis dans le film. C'est juste avant le passage que j'ai pris. Mais moi je voulais juste dire qu'effectivement il y a moins ce côté héroïque. Mais je pense qu'on trouvera pas de parce que le personnage du héros est tellement implanté maintenant dans la manière de faire du cinéma que.
La question avec laquelle je pensais, c'est ça, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça a changé? Est-ce qu'il y a une science-fiction avant, je prenais l'exemple de Malencontreux, effectivement, de l'Ange Mécanique, mais est-ce qu'on n'est pas passé à une SF qui est extrêmement, enracinée dans le réel actuel, c'est-à-dire avec ses injonctions, cet individualisme, ses rôles assignés comme ça, et qu'au bout du compte, elle se tire une balle dans le pied un petit peu, parce que j'ai l'impression que son contenu subversif, moi, je le vois beaucoup moins.
Mad Max, c'était pareil.
Mais Mad Max, c'était pareil.
Elle est faite pour récupérer des trucs subversifs et en faire des trucs conformistes. Je veux dire, ça peut pas être subversif.
Mais toi, tu penses qu'il n'y a pas des niches où on trouve des
indépendants? Par erreur, tu peux avoir des
failles. Pendant quelques semaines.
Sinon, c'est formaté. Je veux dire, tu as tellement de spécialistes, de pointures qui bossent là-dedans. Je veux dire, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Oui, mais des fois, il y a des surprises quand même. Il y a des fois des films qui sortent. Et un exemple complètement hors sujet et peut-être qui surprend, mais c'est le film Lego. Je ne sais pas si certains ont vu le film Lego. Ils ont fait tout un truc subversif pour un film pour enfants, avec ces personnages qui doivent suivre le plan de mettre les briques et qui sont tous pareils, et le gars qui se rebelle là-dedans. Et c'est un de ce film qui m'a dit, tiens, de temps en temps, il y a un type qui doit réussir à placer son scénario un peu hors establishment, et qui c'est étonnant. Et de temps en temps, tu as des trucs qui sortent, mais après, ça change rien. Enfin, pour revenir à ce que je disais avant, en sortant de V for Vendetta, je me dis, tiens, il y a des millions de personnes qui vont voir ce film. Est-ce que ça peut produire quelque chose ou pas? Et non, rien. Ça revient à ce que tu dis. C'est que finalement, on absorbe ça comme un film et puis il n'y a pas le pas d'après. Ça ne va pas amener une prise de conscience, même s'il y a des personnages, même s'il y a de l'émotion, comme le dit Damasio.
V for Vendetta et les Anonymous qui ont repris le modèle.
Oui, c'est vrai.
Avec les masques et qui agissent comme anti-gouvernemental, anti-système établi, etc.
Oui, c'est déjà avant le film.
Donc,
déjà le film est tiré d'une BD
qui est déjà
de. Ils ont pris les codes après. C'est vrai. Il y a un autre exemple d'ailleurs où je me suis dit la même chose, mais je n'arrive pas à me rappeler où je me dis tiens, il y a effectivement eu un impact parce qu'ils ont repris des références. Mais c'est vrai, il y a eu ça. Il y a quand même eu ça.
Peut-être dans le court-métrage, il faut essayer d'aller puiser aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs, on ne sait pas trop dire quoi maintenant, mais souvent dans les courts-métrages, il y a des trucs assez dingues de science-fiction.
Mais qui restent assez confinés.
Il y a un peu de diffusion.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Qui a vu un court-métrage à la télé ces 5 dernières années?
Il y a la jetée qui est passée.
Voilà ce que j'allais dire, il y a la jetée qui est passée il y a deux ou trois semaines sur Arte.
Oui, sur Arte, on a de temps en temps.
Alors, des fois, ils font des nuits et tout ça, mais alors
faut se taper la nuit.
Ou alors, il y a le replay derrière.
Ouais, c'est ça. Ouais, clair.
Mais dans les circuits genre cinématographiques un peu tournant, je ne sais pas comment on peut dire, mais est-ce qu'on a vraiment de choses qui existent un petit peu comme ça? Je dis ça parce que moi, j'adore revoir les vieux machins produits par la CNT, 36, 38. Mais à ce moment-là, c'était vraiment du réalisme pur jus, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas justement des gens, parce qu'il y a certainement parmi les cinéastes des anards, en tout cas des gens qui ont envie de renverser tout ça. Et moi, je connais un peu la famille digitale. Ils sont à Poitiers, ils se disent vidéastes engagés. Ils essaient de sortir justement pour produire autant sur le fond que sur la forme des trucs un peu comme ça. Mais ça donne du coup des machins un peu expérimentaux. Voilà, avec les limites que le cinéma expérimental contient, quoi. C'est-à-dire que ça s'ouvre. Ça s'ouvre vite.
Ouais, on est tellement habitué à avoir un produit. C'est quand même des grosses machines, quoi, de production qui font des trucs avec des effets spéciaux, les machins, de la belle couleur, les belles images, les acteurs, les machins.
Inversement, tous ces produits deviennent plus faciles et de moins en moins chers à fabriquer. Et on a de plus en plus de chaînes de la TNT, de tous les pays qui commencent à produire des trucs différents, mais qui restent sur leur chaîne. Donc comme elles font que 1 ou 2% de part de marché, voire moins, personne n'en parle. Et puis il y a aussi tout ce qui est web-série actuellement, où chacun peut développer son truc sur Internet. Et puis de nouveau, ça te le bouche à oreille pour que ça sorte, quoi.
On pourrait dire que la science-fiction, comme elle est tributaire de la technologie, elle ne pourra jamais vraiment dire du mal de la technologie.
Non.
Ouais.
Maintenant, aucun film ne sort sans technologie.
Oui, ça c'est
avec bon, tu... Oui, technologie, d'accord.
Non, mais même en images de synthèse et reconstitution de plans, la quasi-totalité des films sont comme ça. Oh, à part Joséphine
Gardien. À part des huit clos. Mais même Joséphine Gardien.
Ah bah oui, en plus,
t'as eu des films comme ça, par exemple, t'as un film français qui s'appelle Malville, qui est aussi un film comme ça qui a échappé, qui a été fait à petit budget dans les années 50.
Et là, il y a zéro technologie dans ce film, il y a zéro trucage.
Mais c'est de la très bonne SF, post-apocalyptique, comme ça.
Mais du coup, fais attention entre la SF comme matrice, qui, à mon avis, je crois, a été écrite par les frères Wachowski, c'est pas tiré d'un roman, puis il y en a d'autres qui sont tirés de romans. Malville, c'est tiré de Robert Merle. Divergente, en fait, c'est pas le film en soi, c'est des romans pour jeunes. Qui ont vraiment fait le buzz, ça s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires, et là Hollywood a récupéré le truc. Donc on ne peut pas parler du film comme étant un produit hollywoodien.
Il y a une différence par rapport à.
Non, j'ai pas lu la série de bouquins, ni vu le film. Mais là, je sais que c'est effectivement un phénomène. Alors là, dès que les ados se mettent à fond là-dedans, Hollywood plonge directement. Quoi.
Après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils en font par rapport à
ils ont peu de marge de manœuvre parce que très souvent ce sont des séries. Pour que les ados accrochent, c'est rarement sur un truc, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et s'ils s'écartent trop du modèle, ils vont tout de suite refuser d'y aller. Donc ils sont obligés quand même de suivre le truc.
Dernièrement, ils ont refait Fahrenheit.
Ils ne fonctionnent pas comme ça.
Ils ont refait Fahrenheit, c'est pareil. Là, ils l'ont complètement.
Oui, mais c'est un truc.
Oui, mais c'est quand même une loi générale, c'est quand même une belle main dessus.
Mais si on veut faire une série, si dès le premier on commence à changer complètement le truc, les jeunes qui ont aimé le bouquin ne vont pas aimer le film, et puis du coup, est-ce que ça va continuer à faire un buzz? Et est-ce que les autres qui n'ont pas lu le bouquin vont quand même aimer le film?
C'est là où ils sont subtils.
Ils prennent du risque.
Ils changent les trucs qui sont
subversifs.
Qui ne sont pas évidents à comprendre, quoi.
À repérer.
C'est l'intentionnalité qui change.
Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais sur la dimension critique, sur la technologie, parce qu'il y a, de temps en temps, il y a la critique, de temps en temps, il y a l'apologie, mais il y a aussi une sorte de voie médiane qu'on retrouve chez Ursula Le Guin, où elle est passée dans un monde qui est, comment ça s'appelle, les dépossédés, c'est que, comme on l'a dit, c'est une planète rude et tout ça, et pourtant, il y a quand même une technologie avancée, en tout cas, dans mon souvenir du bouquin, il y en a une, c'est
un cible.
L'ordinateur central, moi je ne me rappelle pas.
C'est la télécommunication directe avec la.
Alors peut-être ça, moi je ne pensais pas à ça. Je pensais qu'il y a un ordinateur central qui répertorie tous les travaux à faire. Donc on peut s'inscrire pour un boulot à n'importe où et ça nous dit les places libres et les besoins, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à placer une technologie avancée mais qui ne soit pas, dominatrice. C'est-à-dire, ça peut être de la quelque chose de très pointu, très, mais c'est vous qui choisissez derrière. Il n'y a pas de comme on dit souvent, c'est la technologie qui nous façonne. Du moment qu'on développe quelque chose, on est un peu les esclaves de ça. Et là, elle a réussi un peu à trouver une manière non autoritaire. Voilà, c'est ça que je cherchais, non autoritaire de technologie avancée. Et d'autres, ça se retrouve dans d'autres, notamment dans, on n'a pas encore parlé, je suis content de le placer, dans Yann M. Banks, le cycle de la culture. Où là aussi, il y a toute une société qui est sans argent, sans loi, sans maladie. Les gens peuvent se régénérer, ils peuvent changer de corps, changer de sexe à volonté, ce genre de choses. Et ça a été mis en place par une sorte d'intelligence artificielle dont on sait peu de choses, mais qui a voulu un peu le bonheur général, on va dire. Moi, j'ai pas lu l'ensemble du cycle, donc je peux pas en parler en détail, mais qui a essayé comme ça, de, tout en étant non-humain, de faire la société humaine utopique, par nature, et la plus libre et libertaire possible, donc sans domination, sans propriété, sans hymne ni drapeau, enfin, assez loin dans la réflexion comme ça. C'est assez intéressant de dire, en SF aussi, il y a ce côté de réflexion à quoi pourrait être une technologie libertaire, ou en tout cas qui irait un peu dans ce sens-là.
Une bourse du travail électronique.
Norman Spindrad est assez anti-technologique.
Je pense qu'il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal.
Et souvent, c'est très anti ou c'est très pro dans très l'avancée avec comme on a dit, transhumanisme. Il y a un entre-deux avec une technologie qui soit présente, mais pas omniprésente ni en voie de perdition. Il n'y a pas tant d'exemples. Et là, c'est deux où on peut trouver une sorte de technologie adaptée à l'anarchisme, en tout cas à la pensée anarchiste, qui est assez, assez intéressante en soi. Quoi. Yann M. Banks, je crois qu'il est là-bas.
au moins
10. Il y en a 9. Sur un tas.
L'homme des jeux, gagner la guerre, je crois.
Ian M. Banks.
Il y a un film qui est absolument génial, je trouve, qui s'appelle Le Train, là, cette histoire de... Transperce-Neige. Ouais. Incroyable, ça. Ça, pour moi, cette science-fiction-là, elle reflète bien toutes les castes et tous les niveaux de domination qu'il y a dans l'humanité, quoi, dans les groupes humains. Par exemple, Marc Javel, qui écrit de la science-fiction, c'est parti de... C'est quel courant, c'est quelle volonté de message.
Si vous êtes tous à parler en même temps, on va
effectivement d'une forme de bonheur humain. Mais dans chaque roman du cycle, il questionne une facette de la société humaine différente. Ça va être les guerres, ça va être les loisirs, ça va être les dépendances, ça peut être la religion, ça peut être le sens de l'art. Ça peut être le passage de l'être humain à l'ange. Dans chaque roman, il va questionner une facette différente de notre société. Alors, sous couvert de science-fiction, bien sûr, mais ça reste une interrogation de notre propre culture.
Ok.
Tu parlais de Banks ?
Ouais.
Mais j'ai une question. Est-ce que vous avez étudié un peu en comparant les contes du Moyen-Âge, les contes nordiques et puis la science-fiction. Ce que je constate, c'est que dans les contes, il y a une fiction, c'est aussi le rapport avec les animaux qui causent, quoi. Est-ce que dans les nouveaux auteurs de science-fiction, est-ce que ce sujet est également traité? Maintenant, on sait qu'il y a des recherches, là, je viens de voir aujourd'hui, là, on essaie de décoder le langage des dauphins, par exemple, et tout. Et ça, c'est aussi, disons, une dimension intéressante de la science-fiction. C'est est-ce qu'on arriverait à communiquer avec les animaux, quoi, sur les problèmes actuels, par exemple, pollution, etc.
La guerre des étoiles, il y a des animaux. Ouais.
Je sais pas si tu vas vendre beaucoup de bouquins, quoi.
Ce serait plutôt en littérature fantastique.
Il y a les deux.
Ouais. Mais il y aurait un Simac, Demain les chiens.
Demain les chiens, il y a Sirius de la Sapaltoine.
Un univers où ce sont les chiens, finalement, qui... Mais le fait de parler homme...
En tout cas, il y a des best-sellers actuellement qui sur la communication avec les plantes. Il y a un best-seller là qui est paru récemment. Ah. Et maintenant, je ne sais pas si c'est le même auteur, mais en tout cas, peut-être la même collection, etc., sur les par rapport aux animaux.
Mm-hmm. Donc, les débuts de Bernard Werber, c'était les fourmis.
Voilà, les fourmis aussi. Donc, en tout cas, c'est un truc qui parle aux gens, parce que ça fait des
En fait, c'est un petit truc qu'on utilise, parce qu'en gros, quand on dit SF, on peut l'avoir au sens large, où ça peut inclure le fantastique et la fantasy. Et puis, à ce moment-là, c'est comment catégoriser un des genres. Alors, il y a une manière de le présenter que j'aime assez bien, c'est...
La parabole du chat.
Le chat ou le chien, peu importe, on va dire le chat. Le chat parle. Me parle. C'est normal, il a eu des implants, etc. Ça peut être Sirius de la Stapleton. Donc c'est normal qu'il parle. Il y a un côté technique, donc c'est de la science-fiction. Il y a « mon chat me parle », c'est normal, tous les chats parlent. Donc là, on est sur Dinotopia et tout comme ça, ça c'est plus de la fantaisie. Et puis il y a « mon chat me parle », puis là, c'est l'horreur, parce qu'on n'a pas l'habitude, et ça c'est nouveau. Et ça c'est plus du fantastique, parce que c'est un événement extraordinaire dans un monde ordinaire, où on a quelque chose qui sort comme ça. Et du coup, dans les trois cas, on a un chat qui parle et on a trois catégories différentes.
Il a ça, mon chat me parle, mais c'est parce qu'il a,
oui, parce qu'il a des implants.
Et donc, je peux vous dire, chat mort ou pas mort, on le met où ?
Non, est mort, s'il te plaît.
Mais du coup, on le met où ?
Mais pour Pour revenir à ta question, Yvan, j'ai pas du tout en tête d'autres exemples où il y a ce lien direct avec les animaux. Il faudrait un peu creuser la question. Ça existe, je suis quasiment certain que ça doit exister. Mais je n'arriverai pas à sortir un titre comme ça.
Il parle.
C'est sur une planète.
Dans tous les mythes, fondateur, en fait, les humains sont des animaux comme les autres, donc se comprennent avec les animaux, jusqu'à un moment où il y a un point de rupture, où ils n'arrivent plus à comprendre les animaux, puis en général, c'est parce qu'ils ne se considèrent plus comme des animaux. C'est de...
La planète des singes.
La religion, c'est-à-dire un passage de l'animisme à une religion quelconque, monothéiste ou autre.
Après, il y a aussi la limite, on peut prendre un bouquin de Vercors, Les animaux dénaturés.
Oui, c'est chouette ça.
Où est la limite entre l'humain et l'animal?
Puis l'île du docteur Moreau, tu l'as où là-dedans?
Ben là, c'est de la science-fiction, puisque c'est par manipulation scientifique. Mm-hmm. Les animaux ne sont pas naturellement comme ça.
Ouais, mais
ils sont modifiés en labo.
Ouais.
Donc il y a une solution technologique. Mm-hmm. C'est même derrière.
Bonjour, encore un petit truc. Pour en revenir aux nouvelles technologies, tout ça. Est-ce que, là aussi, je me demandais s'il y avait dans la SF des récits qui font un petit peu la parabole autour de... Parce que plus que les nouvelles technologies ou le transhumanisme, il me semble qu'il y a dans le monde de la dystopie des réseaux qui font beaucoup de mal. C'est-à-dire que c'est pas automatiquement un corps de métier en soi, mais que c'est l'assemblage, typiquement, si je prends un exemple et puis que je ferais un roman... Je nommerai autrement les grandes entreprises et les personnages, mais je pourrais faire une allusion au fait que, par exemple, si j'ai bien compris, un des gars qui s'occupe beaucoup de transhumanisme, enfin, a beaucoup d'intérêt là-dedans, est également peut-être le président d'honneur, enfin, a un titre dans Google, est extrêmement influent dans cette sphère-là, qui touche également, Google touche à plein de choses, et du coup, c'est en fait cet entrelacement-là qui rend le monde inacceptable, parce qu'en fait, il est occulte, on n'y accède par aucun moyen, et alors pour le détruire ou pour le remplacer par d'autres pratiques, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Et je me demandais si ça, ce type de science-fiction-là qui fait cette parabole existe aussi. Si vous avez vraiment quelque chose, quoi.
Moi, l'exemple qui m'est venu quand on t'en parlait, c'est justement dans la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, où il imagine que dans le futur, il y aura une fusion entre les États et les multinationales. Et je pense que c'est hyper intéressant de la manière dont il le pense. C'est-à-dire qu'il y a une telle puissance qui est prise par la Chine et l'Inde et des multinationales comme Google et d'autres choses que tout d'un coup, elles se disent, on est tellement main dans la main que voilà, il y a une sorte de fusion d'intérêts qui se crée entre le politique et l'économie. On est en plein dedans, quoi. Et c'est hyper intéressant de voir que lui, il a vraiment ciblé et montré qu'est-ce que ça pourrait donner et que tout d'un coup, ils se font la guerre, un peu comme dans 1984 où il y a ces trois grands groupes qui se font la guerre à tour de rôle, et c'est une sorte de zone d'influence, et lui, il l'a mis en scène comme ça. Donc en tout cas, il y a cet exemple-là, et on a...
C'est ça qui... C'était dans les années
50 ça, Kim Stanley Robinson, hein, ou bien...
Ouais.
Non, c'est plus récent, c'est années 90, je dirais. Je vais te dire ça. 90 ou 80, mais lui, il est encore vivant. 96 pour le deuxième tome, ça doit être ça.
Quelle est la meilleure bibliothèque de Genève pour les...
La sienne.
Non,
le Greenberry, c'est pas mal. Alors, pour les bibliothèques de science-fiction, ça vous intéresse, la meilleure, c'est les Papy.
Oui.
Parce qu'ils ont une donation et ils ont un choix absolument extravagant.
On peut dire aussi la librairie féministe F-Information a reçu une dotation de SF Femmes, féministe Femmes. Donc là, il y a aussi un grand... Et sinon, on a le musée de la science-fiction à Yverdon. Je vais quand même en parler brièvement, qui s'appelle La Maison d'ailleurs. Donc là, il y a la plus grande collection d'Europe, on peut dire, en termes de science-fiction. J'ai mis quelques flyers pour l'association des amis du musée, d'ailleurs, qui fête ses 30 ans, si jamais ça...
Ah, cool. La maison d'ailleurs,
Non, l'association des amis. La Maison d'ailleurs, elle a fêté 40 il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Un an ou 2 ans.
Ah, tu pourrais parler du concours. S'il y a des gens qui aiment écrire, hein, qui ont envie d'écrire, il y a pas mal d'appels à texte souvent. Et puis il y en a un bientôt, non ?
Voilà. L'AMDA, les amis de la maison d'ailleurs, a lancé un appel à texte avec les éditions Encre Fraîche sur le thème des voyages fantastiques, donc en référence à Jules Verne, dont on a.
Fantastique ou extraordinaire ?
Extraordinaire, pardon. Ouais, extraordinaire. Ciao. En référence à Jules Verne, dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais qui était aussi lié avec les anarchistes, et notamment Élisée Reclus. Et apparemment, Élisée Reclus, il aurait présenté Kropotkin, pour lui, qui lui a donné des infos sur, pour faire Michel Strogoff, pour la faune et la flore. Enfin, à vérifier, mais c'était dans un article, quelqu'un en parlait comme ça. Et Pierre Versin, fondateur de la Maison d'ailleurs, qui était aussi anarchiste, qui a beaucoup fait des allers-retours au CIRA pour essayer de trouver des infos pour son encyclopédie. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup, quand on creuse un peu le sujet, on voit qu'il y a beaucoup de liens entre les auteurs. On n'a pas parlé d'Ayerdal, qui est décédé il y a quelques années, qui se revendiquait. Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Il y a Moncoq, d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'auteurs qui se disent anarchistes et qui essayent de...
Et à l'inverse, il y a des auteurs qui se sont revendiqués, dont on sait qu'ils sont anarches et qui se disent pareil aux auteurs de science-fiction. Ça va dans ce sens-là aussi.
Bonne question. Écoute, je sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, mais Karim Berouka, qui est le chanteur de Ludwig von 88, qui a écrit là, plusieurs livres de SF, notamment celui-là récent, le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie, tout un programme, prix Julia Ferlanger 2016 quand même. Hein, donc il est... Mais alors, est-ce que lui se dit anarchiste, je suppose, mais je connais pas plus.
Non, si je me disais, si un Élisée Reclus, par exemple, aurait dit, voilà, je fais une petite collection. Bah, typiquement, là, sur les lieux géographiques anarchisants ou anarchistes, tu vois. S'il avait écrit autour de la Cour des Lions.
À part ça, il y a plusieurs théoriciens qui ont des fois écrit des petites utopies ou des trucs qui peuvent être entrés dans l'histoire de la science-fiction.
C'est plus des romans d'anticipation sociale.